23h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Gallen.
C'était une visite historique, mais elle n'a duré que quelques heures. Retour éclair à Kiev pour Volodymyr Zelensky après l'attaque russe qui a touché la capitale ukrainienne. 12 morts et plus de 90 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Avant de partir, le président ukrainien a souligné le rôle clé de l'Afrique du Sud et du continent dans le processus de paix. Vive émotion en France après une attaque au couteau dans un lycée de Nantes dans l'ouest de la France. Une élève est morte et 3 autres sont blessés. Cela s'est déroulé pendant les heures de cours. On fait le point dans ce journal. En Corée du Sud, le sort s'acharne sur la présidence. Moon Jae-in, le seul président à être épargné par les ennuis judiciaires, a été inculpé pour corruption. Et puis à Rome, les fidèles sont toujours aussi nombreux pour rendre hommage au pape François. Sa dépouille est exposée à la basilique Saint-Pierre jusqu'à ce vendredi, 17h temps universel, avant les funérailles samedi matin. Retour express à Kiev pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien était en Afrique du Sud ce jeudi pour rencontrer le président Cyril Ramaphosa. Une visite écourtée car la capitale ukrainienne a été victime de violentes frappes russes, 12 morts et plus de 90 blessés. Une des attaques les plus importantes sur Kiev depuis le début de la guerre. Avant de reprendre l'avion, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux médias. Il a rappelé l'importance du rôle de l'Afrique du Sud et du continent en général pour venir à la paix. Correspondance à Pretoria de Valentin Hugues.
C'est une rencontre historique, première visite officielle du président ukrainien dans un pays d'Afrique, illustration d'une volonté de se rapprocher du continent.
Poutine n'apprécie pas la présence de l'Ukraine en Afrique. La Russie veut une présence exclusive, mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires sur le continent contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel et à arrêter la guerre.
Et en tant que pays non aligné, l'Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d'être un pays médiateur. Rien que cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a aussi échangé au téléphone cette fois avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump.
L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et le dialogue sont plus puissants que n'importe quelle arme.
Volodymyr Zelensky a dû écourter sa visite à Pretoria pour rentrer en urgence à Kiev après l'une des plus grandes offensives russes sur la capitale ukrainienne. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Une déclaration en cascade après cette attaque russe. Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine à arrêter de mentir quand il affirme vouloir la paix tout en continuant à bombarder l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la balle est clairement dans le camp de la Russie. De son côté, Donald Trump, qui annonçait ce mercredi qu'un accord avec la Russie était proche, semble s'agacer. Le président américain a publié sur son réseau Truth Social « Vladimir, arrête ». Direction le Proche-Orient, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. L'État hébreu a menacé ce jeudi de lancer une offensive plus vaste dans l'enclave si les otages n'étaient pas libérés du territoire palestinien. Et ce, tandis qu'Israël bloque l'aide humanitaire aux frontières depuis près de 2 mois. L'ONU dénonce une situation humanitaire qui serait actuellement la pire depuis le début de la guerre. La France, choquée par cette attaque au couteau dans un lycée de Nantes dans l'ouest de la France. Une élève est morte et 3 autres sont blessés. Un lycéen de 16 ans les a poignardés ce jeudi midi pendant les heures de cours à Notre-Dame de Toutes Aides. Après avoir été maîtrisé par des enseignants, le jeune homme a été interpellé par la police qui a bouclé le quartier. Les élèves ont été évacués. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale se sont rendus sur place. Le suspect a été hospitalisé après un examen psychiatrique. Et avant l'attaque, plusieurs camarades, dont Martin, ont reçu un long email de l'assaillant. Il était notamment question de conditionnement social et d'écocide. On l'écoute.
Quand à midi 15, tous les élèves du lycée ont reçu, je ne sais pas si les enseignants aussi, mais on a reçu un mail donc, de l'élève en question qui a fait les actes. Donc c'était un mail de 13 pages avec des grands textes et quelques illustrations. On n'a pas le temps de le lire, c'est très long, mais c'est un mail qui dit qui parle de la société actuelle, etc. Ça montrait que c'était prémédité ce qu'il allait faire. Hein. Ça s'est passé entre midi 15 et 13h, après j'ai pas l'heure exacte. Et donc après, nous on était en cours, hein, mais on a été prévenus que lors de la sortie des cours. De ce que j'ai entendu, il y a eu une petite alarme, mais donc quand on est sorti, puis après effectivement on a vu toutes les forces de l'ordre et les pompiers, le SAMU, le SMUR et tout ça arriver. Pour nous c'était absolument choquant, hein. On est dans un lycée qui a d'habitude des pourtant très calme, il n'y a jamais eu de problème de ce type là, même des problèmes mineurs. Là de voir en plus une élève décédée, une camarade, ça nous a fait vraiment froid dans le dos, hein. Il y a eu des pleurs, etc. Enfin, c'est vraiment vraiment très choquant pour nous.
Un témoignage recueilli par Quentin Meunier. Les États-Unis ne veulent pas abandonner les énergies fossiles. Lors du sommet international sur la sécurité énergétique qui s'achève ce vendredi à Londres, Washington a rappelé son attachement à ces énergies très polluantes. La sortie du pétrole ne figure même plus parmi les objectifs urgents de l'Agence internationale de l'énergie. On écoute Tommy Joyce, le secrétaire adjoint par intérim à l'énergie.
Sous notre administration, nous allons libérer toutes sortes de productions d'énergie. Il y aura plus et pas moins de forages sur le sol américain. Ce n'est pas tout. Grâce à nos laboratoires nationaux, nous allons tout faire pour commercialiser d'autres types d'énergie, y compris l'énergie nucléaire. Les jours de surrégulation sont finis. Nous n'allons pas sacrifier notre économie ni notre sécurité pour des accords mondiaux, pour un futur soi-disant neutre en émissions carbone. Et nous n'allons encourager aucun autre pays à le faire. C'est la pire politique de gestion de risque possible. Elle se concentre sur un seul risque, ignore tous les autres et en crée de nouveaux, comme le manque de sécurité énergétique qui peut et va toucher des vies humaines.
Tommy Joyce, le secrétaire adjoint par intérim à l'énergie, propos recueillis par Agnieszka Kumor. RFI 10h06 à Séoul, la justice sud-coréenne a inculpé l'ex-président Moon Jae-in pour corruption. Il était jusqu'ici le seul ancien président à avoir été épargné par les ennuis judiciaires. L'homme est accusé d'avoir facilité l'emploi de son gendre, un énième épisode dans le chaos politique sud-coréen depuis la déclaration avortée de la loi martiale du président Yoon Suk-yeol. Nicolas Roca.
C'était une figure de probité, le seul ancien chef d'État sud-coréen encore en vie à avoir évité les ennuis avec la justice. Finalement, Moon Jae-in devra répondre à des accusations de corruption. Le parquet estime que le gendre du président de centre-gauche a obtenu son poste illégalement. Il a été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easter Jet, entreprise gérée par un ancien député du Parti démocrate, la formation politique de Moon Jae-in. Selon les procureurs, les 132 000 euros de salaire perçus seraient en réalité des pots de vin à destination de l'ex-président. Cela a permis à sa fille et à son gendre de vivre sans le soutien financier de ses parents. Les accusations de corruption sont prises très au sérieux en Corée du Sud et plusieurs chefs d'État en ont fait les frais, à l'image d'Im Yong-bak et de Park Geun-hye, deux présidents conservateurs qui ont passé plusieurs années derrière les barreaux pour ce motif. Yoon Suk-yeol, l'ancien président accusé d'insurrection pour avoir proclamé la loi martiale en décembre, est lui jugé en ce moment et risque la prison à vie.
À Rome, l'afflux des fidèles se poursuit devant la dépouille du pape François. Plus de 90 000 personnes lui ont rendu hommage dans la basilique Saint-Pierre depuis mercredi matin. Une affluence immense et des heures d'attente pour quelques instants auprès du cercueil papal. Mais pour le père Hermel Tonato, ça vaut le coup. Le prêtre béninois était de passage à Rome au moment de la mort du pape.
Je viens de me recueillir devant la dépouille du pape. C'est un moment de silence, de recueillement et surtout de prière pour que le Seigneur accueille l'âme de notre cher Saint-Père qui s'en est allé vers le Père. Alors, voyez le monde qui est là, qui passe, qui est impatient des files de 6 heures, 7 heures, 10 heures, d'attendre juste pour un petit passage d'une minute, même de quelques secondes. Je pense que cela va le coup. Cela est l'expression de la foi qui anime ceux qui sont là et qui accompagnent le Saint-Père dans son passage vers le Père Céleste. À l'intérieur, il y a une longue file qui est au milieu. Ensuite, il y a certains qui peuvent aller près du cercueil comme moi. On peut prier quelques minutes là, se recueillir. Et puis après, il y a la foule qui attend et puis on ne traîne pas. Ça passe tellement si vite, mais c'est tellement bien organisé qu'il n'y a pas de bousculade, rien du tout. Tout se passe dans l'ordre.
Propos recueillis par Daniel Vallaud et Jade El Khoury. Puis avant de fermer ce journal, un peu de football. Demi-finale, retour de la Coupe d'Italie. Victoire de Bologne contre Empoli 2-1. Ils affronteront l'AC Milan en finale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.